Washington.
Bonsoir à tous, bienvenue dans cette édition de 19h30 temps universel du lundi 13 août 2018. Abdourahmane Dia à la présentation, voici les titres. Au Mali, Soumaïla Cissé rejette les résultats du second tour alors que le dépouillement se poursuit, un scrutin qui s'est tenu sans engouement.
C'est la conséquence logique d'une chute de popularité de l'ensemble des acteurs politiques. Les Maliens avaient d'importantes attentes par rapport à la démocratie au sortir de la chute de la dictature.
Au Zimbabwe, le président Mnangagwa appelle à tourner la page des élections dans un discours prononcé ce lundi. Au Cameroun, le gouvernement promet une enquête après une nouvelle vidéo montrant des exactions de soldats sur des civils. Le guide suprême iranien a déclaré qu'il n'y aurait ni guerre ni négociation avec les États-Unis. Ne ratez pas les informations sur l'actualité économique et les sports, mais tout d'abord le journal. Les Maliens attendent les résultats du second tour de la présidentielle d'hier entre le président sortant Ibrahim Boubacar Keïta et l'opposant Soumaïla Cissé. Ce dernier a d'ailleurs déclaré qu'il ne reconnaîtrait pas les résultats. Kassim Traoré.
Alors, Abdourahmane, depuis la fermeture des bureaux de vote, on peut dire que le camp Soumaïla Cissé a opté pour la contestation, car hier, depuis que les urnes ont été fermées, dans les camps de Soumaïla Cissé, il y a eu d'abord des éclats de joie des manifestants au niveau de son QG. Idem pour le camp Ibeka, où ses partisans aussi se sont mobilisés. Tout à l'heure, il y a quelques minutes seulement, Soumaïla Cissé, à partir du balcon de sa résidence dans le quartier de Badlabou, a fait quelques déclarations. Pour lui, il est en avance sur le président de la République sur la base des résultats qu'il a obtenus. Soumaïla Cissé appelle les Maliens à se lever. Selon les données qu'il dispose, qu'il a à sa possession, il serait largement en tête devant les candidats Ibeka, a déclaré Soumaïla Cissé. Il condamne aussi le sabotage de leur base de données par les services techniques de l'État. Fin de citation. En tout cas, ici, nous sommes toujours dans l'attente des premiers résultats provisoires. La centralisation se poursuit au niveau de l'administration territoriale où les mandataires des deux candidats sont là-bas avec les techniciens de l'administration territoriale. Selon nos informations, les choses risquent d'aller très vite. Contrairement au premier tour, les travaux ne vont pas dépasser 72 heures. Ibrahim Boubacar Keïta opte pour le silence. Il préfère attendre les résultats provisoires pour se proclamer, pour faire sa première déclaration. Nous l'apprenons auprès de son directeur de la communication, Mamadou Camara.
Voilà, c'était Kassim Traoré depuis Bamako. Et on revient sur l'assassinat hier d'un président de bureau de vote dans le cercle de Niafunke, dans la région de Tombouctou. Nous avons notre correspondant Sekou Abdoulkader Maïga qui nous fait le point.
Suite au décès de Ibrahima Alassane Cissé, président du bureau de vote 2 du village de Arkodjo, jour de scrutin hier, donc dimanche, aux environs de 14h30. C'est hier soir que l'armée est arrivée sur les lieux pour récupérer le corps. Malgré le départ des assaillants, la population avait toujours peur d'arriver sur les lieux. Cette situation dramatique a paniqué plusieurs autres agents électeurs dans la même commune qui ont aussitôt fermé 8 de leurs bureaux de vote, craignant ainsi pour leur vie. Selon nos sources, des enquêtes seraient en cours pour déterminer qui se cachait derrière cet assassinat. Il faut aussi noter que cet état de fait a joué sur la collecte des résultats puisque plusieurs présidents des bureaux de vote à l'intérieur du cercle ont préféré dormir où ils étaient, craignant pour leur vie, et n'ont plus la route que ce matin en direction de la préfecture où seraient centralisés tous les résultats du cercle. Certains agents électeurs ont même perdu leur moto sur la route dans leur fuite du côté de Niudougou et d'autres sont arrivés très fatigués après de longues heures de marche, matériel électoral en main. À l'heure où je vous parle, tous les agents électeurs du cercle sont arrivés à leur domicile. Ici à Niafunke, après cet acte, la ville est calme, mais surtout attristée.
En République démocratique du Congo, les ex-rebelles du M23 appellent à des élections crédibles après le retrait du président Joseph Kabila. Les ex-rebelles du M23 qui avaient été défaits dans l'est du pays affirment dans un communiqué être physiquement présents sur le territoire national congolais depuis janvier 2017. Le M23 dénonce en particulier la mise à l'écart de la machine à voter et demande la mise à l'écart de la machine à voter et la clarification des cas litigieux des 6 millions d'individus irrégulièrement inscrits sur le fichier électoral selon ce mouvement. De notre côté, les partisans de Moïse Katumbi envisagent des marches dans tout le pays pour demander son retour et le dépôt de sa candidature même après la date limite du 8 août. Le porte-parole du gouvernement camerounais, Issa Tiroma Bakari, a promis l'ouverture d'une enquête sur une nouvelle vidéo montrant des exactions imputées à l'armée dans la région de l'extrême nord. La vidéo, qui aurait été tournée avant mai 2016, selon Amnesty International, a été diffusée début août sur les réseaux sociaux. Au Zimbabwe, cet appel a tourné la page. Le président Emmerson Mnangagwa demande à ses concitoyens de dépasser la période électorale et embrasser l'avenir. Un appel à l'apaisement alors que l'opposition conteste son élection. Bagasikura.
Il est temps de mettre la période électorale derrière nous et d'embrasser l'avenir, a affirmé Emmerson Mnangagwa lors d'un discours à l'occasion de la journée des héros de l'indépendance. Il a aussi répété que le scrutin avait été libre, équitable, transparent et crédible, accusant l'opposition des violences. Depuis vendredi, la Cour constitutionnelle est saisie par l'opposition pour des cas de fraude massive lors de la présidentielle du 30 juillet. Du coup, l'investiture de Mnangagwa, initialement prévue dimanche, a été repoussée. D'après la commission électorale, le premier tour a été remporté par Mnangagwa avec 50,8% devant le leader du MDC, Nelson Chamisa, crédité à 44,3%. Maintenant saisi du recours du MDC, la haute cour dispose de 14 jours pour confirmer ou infirmer ses résultats.
En Afrique du Sud, la Cour constitutionnelle a jugé que la nomination par l'ancien président Jacob Zuma de Shaun Abrahams comme procureur général du pays n'était pas valable et a demandé son remplacement dans les 90 jours. Selon la Cour, M. Abrahams a accédé à son poste après un processus constitutionnellement non valable comprenant une grosse compensation financière pour son prédécesseur offerte par le président Zuma. Les juges estiment que cette nomination découle d'un abus de pouvoir commis par l'ancien président. Human Rights Watch exhorte l'Égypte à rendre justice aux victimes d'un assaut meurtrier contre une manifestation qui a fait des centaines de morts en 2013. Les responsables de cette attaque n'ont toujours pas été poursuivis.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Ici aux États-Unis, la police fédérale a licencié un agent qui avait échangé des messages anti-Trump avec sa petite amie qui travaille aussi pour le FBI pendant la campagne de 2016. Peter Strzok et Lisa Page ont tous les deux travaillé sur l'enquête concernant les emails de Hillary Clinton, candidate malheureuse de la présidentielle de 2016. Le président Trump accuse le FBI de partialité, citant notamment le cas de Peter Strzok. En Iran, le guide suprême Ali Khamenei a affirmé qu'il n'y aurait ni guerre ni négociation avec les États-Unis, même si son pays traverse une situation économique difficile. Le point avec Yacouba Ouedraogo.
Laissez-moi dire au peuple qu'il n'y aura pas de guerre ni de négociation avec les États-Unis, a déclaré le guide suprême Ali Khamenei. Cependant, Amir Hatami, ministre de la Défense, a dévoilé un missile de nouvelle génération et promis de renforcer les capacités balistiques de son pays. La radio-télévision d'État a indiqué que la nouvelle version du missile Fateh Mubin est capable d'atteindre des cibles au sol et en mer. Le guide suprême iranien estime que les problèmes de son pays sont le résultat d'une mauvaise gestion plutôt que du rétablissement des sanctions américaines. Il a autorisé la création de tribunaux révolutionnaires pour juger les suspects de crimes économiques. La justice a annoncé dimanche l'arrestation de 67 personnes soupçonnées de corruption et interdit à une centaine de fonctionnaires de quitter le territoire. L'économie iranienne souffre d'un taux de chômage élevé, d'une forte inflation et la monnaie iranienne est en chute libre. L'ayatollah Khamenei a critiqué ceux qui ont appelé au départ du président Hassan Rouhani, affirmant qu'ils font le jeu des ennemis.
Le ministre de la Défense israélien Avigdor Lieberman a déclaré que le prochain affrontement avec le mouvement palestinien Hamas n'était qu'une question de temps, alors que les deux camps observent une trêve après un sévère accès de tension. Plus de 180 roquettes et obus de mortier ont été tirés de Gaza vers Israël, faisant plusieurs blessés. L'aviation israélienne a riposté en frappant plus de 150 sites militaires du Hamas, selon l'armée. Trois Palestiniens, dont une femme enceinte de 23 ans et sa fille de 18 mois, ont été tués dans ces raids. Plus de 130 réfugiés syriens établis au Liban sont rentrés aujourd'hui en Syrie dans le cadre d'un nouveau départ coordonné par les autorités de Beyrouth et de Damas. Au Liban, les appels se font plus pressants en faveur d'un retour des réfugiés dans leur pays depuis que le régime de Damas a enchaîné les victoires face aux rebelles et aux djihadistes. La Chine dément vigoureusement la détention dans des centres de rééducation d'un million de Ouïghours, ethnie majoritaire du nord-ouest musulman, mais Pékin a défendu sa politique sécuritaire de lutte contre l'extrémisme et le terrorisme. Lors d'une audition devant un comité des droits de l'homme à Genève, un responsable chinois a assuré qu'aucun groupe ethnique n'était visé en particulier. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. L'actualité économique à présent, on en parle dans la Minute Éco présentée ce soir par Idriss Fall.
En Côte d'Ivoire, premier producteur africain de caoutchouc et septième au rang mondial, les éveaculteurs ont vu leurs revenus divisés par 5 en 10 ans face à la surproduction mondiale. Les producteurs de caoutchouc naturel dénoncent aussi les taxes prélevées par l'État ivoirien. Samir Amine, économiste franco-égyptien, est décédé dimanche à Paris à l'âge de 87 ans. Lui rendant hommage, le président sénégalais Macky Sall a salué un homme qui a consacré toute sa vie au combat pour la dignité de l'Afrique. Il est, entre autres, l'auteur de l'ouvrage intitulé « Le développement inégal, essai sur les formations sociales du capitalisme périphérique ». L'action du groupe pharmaceutique Bayer, nouveau propriétaire de Monsanto, a perdu plus de 10% à la bourse de Francfort. Un tribunal de San Francisco a condamné Monsanto à payer 289 millions de dollars d'amende pour ne pas avoir informé sur les substances cancérigènes de son herbicide Roundup avec le glyphosate et les pesticides très prisés en Afrique. Au moins 4000 affaires similaires sont pendantes devant des tribunaux américains.
À présent, la page des sports avec Nicolas Pinault. Nicolas, bonsoir.
Bonsoir Abdourahmane, bonsoir à tous.
Coupe du monde féminine des moins de 20 ans, l'Afrique aura un représentant en quart de finale.
Eh oui, un match nul arraché dans les ultimes secondes face à la Chine. Le Nigeria, auteur donc de ce match nul, un but partout qui suffit à qualifier les Nigérianes pour les quarts de finale. L'Afrique aura donc un représentant en quart de finale. Hier, le Ghana avait sauvé l'honneur en battant la Nouvelle-Zélande 1-0. Une victoire qui n'empêche pas les Ghanéennes d'être éliminées. Et puis, les autres résultats de ce lundi, match nul, 2-2 entre les Espagnols et les Américaines, le Japon gifle le Paraguay 6-0, l'Allemagne bat Haïti.
Le FC Barcelone a remporté son premier trophée hier au Maroc.
À Tanger, Barcelone a remporté la Supercoupe d'Espagne en battant Séville 2-1. Les buteurs dimanche soir, Gérard Piqué et le champion du monde français Ousmane Dembélé. Le Barça, champion d'Espagne et vainqueur de la Copa del Rey, réalise donc un triplé national.
Le Ghana, dernier qualifié pour la phase finale de la CAN des moins de 20 ans.
Oui, le Ghana est devenu le 8e et dernier pays qualifié pour la phase finale de cette CAN 2019 qui se jouera au Niger. Les Black Satellites sont venus chercher le nul, 1-1 à Cotonou, après leur victoire 3-1 à domicile contre les écureuils du Bénin à l'aller.
On parle de la CAN des moins de 17 ans et le Cameroun devient le deuxième pays qualifié.
Après la qualification de l'Angola dans la zone COSAFA, on connaît un deuxième qualifié pour cette phase finale de la CAN des moins de 17 ans qui aura lieu en Tanzanie en 2019. Il s'agit du Cameroun qui a battu hier le Congo sur le score de 3-1.
Cyclisme avec l'épilogue du Tour du Rwanda, Samuel Mugisha remporte cette édition de 2018.
Le coureur rwandais devant son compatriote Jean-Claude Uwizeye et l'éthiopien Mulwa Elie-Michael, c'est pour la cinquième année consécutive que le Rwanda s'adjuge le maillot jaune de ce Tour du Rwanda. La dernière étape hier dans les rues de Kigali a été remportée par l'Algérien Azedine Lagab.
Enfin tennis, Nadal toujours au sommet du classement mondial.
Oui, Raphaël Nadal qui a remporté son 80e titre à Toronto. Il compte désormais plus de 3500 points d'avance sur son dauphin, le Suisse Roger Federer, absent au Canada. Nadal a donc déjà validé son billet pour les Masters de Londres en fin d'année.
Merci Nicolas.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Abdourahmane Diatta toujours en votre compagnie et on passe au dossier du jour. Au Mali, les résultats du second tour de la présidentielle sont attendus dans les prochains jours pour départager le président sortant Ibrahim Boubacar Keïta et l'opposant Soumaïla Cissé. Cependant, hier, il n'y avait pas bousculade devant les quelques 23 000 bureaux de vote. Comment expliquer ce faible taux de participation des Maliens? Idriss Fall a joint le professeur Issa Ndiaye à Bamako.
Ce n'est pas une surprise. D'abord, c'est la conséquence logique d'une chute de popularité de l'ensemble des acteurs politiques. Les Maliens avaient d'importantes attentes par rapport à la démocratie au sortir de la chute de la dictature. Mais au fil des années, l'espoir s'est amenuisé et la confiance aussi. La gestion des dernières années d'Ibeka aussi a beaucoup contribué à discréditer la classe politique. Et enfin, ces deux acteurs-là qui sont au second tour sont présents sur la scène politique depuis plus de 25 ans. Les Maliens les connaissent suffisamment et n'attendent pas grand-chose de ces deux hommes-là. Les estimations parlent de 22%. Mais ce n'est pas les chiffres officiels, mais on est sûr que de toutes les façons, on n'atteindra pas la barre des 30%. Ça veut dire simplement que le système démocratique malien, tel qu'il a été pratiqué depuis plus de deux décennies maintenant, n'a pas donné les fruits escomptés. Faut-il revoir le modèle? Faut-il changer les hommes? Ou faut-il faire les deux en même temps? La question reste posée. On assiste à une sorte de fin de cycle. La démocratie qui est montée des années 91 est en train de vraiment s'effondrer. Il y a un renouvellement qui se dessine, qu'il va falloir traduire en acte politique. Et ce n'est pas évident.
Ceux qu'on avait appelés les faiseurs de roi n'ont pas donné non plus consigne de vote. Est-ce que ça a eu de l'effet sur la non-mobilisation?
Très peu, parce que d'une manière générale, les Maliens sont déçus de leurs hommes politiques. Ceux aussi qui n'ont pas donné de consigne de vote, parce que ici souvent, on vote pour quelqu'un. Quand on n'a pas son candidat, on est pas motivé à le faire. Mais déjà au premier tour, la mobilisation n'était pas énorme. C'est surtout en région que les gens ont voté. Mais je pense que d'une manière générale, on s'attendait à ce que les gens ne se mobilisent pas au second tour.
Décalage entre les hommes politiques pendant que le pays traverse une crise sécuritaire, une crise économique. Quel avenir pour le Mali alors?
Très très sombre, hein, parce que le pouvoir qui en sortira va sortir moins légitimé que la dernière fois. Je rappelle que Ibeka avait eu près de 77% des gens qui ont voté pour lui. Et parce que les gens espéraient. Et même s'il est élu, il va être très faible, peu légitime pour pouvoir prendre des décisions. Dans tous les cas, les Maliens sont tellement désespérés qu'ils ne croient plus en ce système-là. C'est pourquoi je dis que l'avenir est très sombre et la seule façon de rebondir, c'est de réunir les populations, de leur demander vraiment de dire quel avenir veut-il pour le Mali. Mais on ne peut plus faire des réformes d'en haut et les parachuter sur les populations. Et je pense que si on donnait la parole au peuple, ils vont changer pas mal de choses, y compris congédier pas mal d'hommes politiques de la scène de l'histoire politique malienne.
C'était le professeur Issa Ndiaye, joint à Bamako.
Jacques Aristide avec vous, Washington Forum braque les projecteurs ce jeudi sur la renonciation du président congolais Joseph Kabila à un troisième mandat et ce après un long suspense. Il aurait dû quitter le pouvoir il y a deux ans, soit à la fin de son second et dernier mandat tel qu'exigé par la Constitution. Que signifie cette décision pour la RDC et le reste du continent? Dans quelles conditions se déroulera l'élection présidentielle prévue le 23 décembre prochain après maint report? C'est une édition émission que nous allons vous proposer en collaboration avec notre chaîne partenaire WAF TV à Dakar. Nous attendons vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique. Washington Forum, ce jeudi à 19h30.
Au Togo, le ministère de la Justice a annoncé la semaine dernière l'ouverture d'une enquête sur la profanation de mosquées à Lomé, alors que les catholiques ont exprimé leur solidarité aux fidèles musulmans et exhorté les Togolais à préserver le vivre ensemble pacifique entre les communautés religieuses de leur pays. C'est un reportage à Lomé de Kay Lawson.
La communauté musulmane du Togo est en colère. Des mosquées situées à Goué dans la banlieue nord de Lomé ont été la cible de profanation. Pour l'Union musulmane du Togo, il s'agit des actes de sabotage et de provocation qui s'apparentent à des crimes de lèse-majesté à l'endroit de la communauté musulmane. Abdou Latif Mako est l'imam de la mosquée d'Agoué de Makboué. Il revient sur ces délits.
Dans la nuit du 27 au 28 juin, les fidèles de la mosquée 6 à Agoué Assiéyé ont trouvé les copies du Saint-Coran de leur mosquée déchirées, chiffonnées, puis accrochées aux grilles de la clôture. Les auteurs de ces profanations des lieux sacrés ont poursuivi leurs actes dans deux mosquées dans le quartier Kamfir. Ceci dans la nuit du 31 juin. Et du 3 août. Les mosquées ont été incendiées, les exemplaires du Saint-Coran détruits et les biens matériels saccagés.
Ces actes risquent de menacer le vivre ensemble religieux au Togo, estime-t-on. Le professeur Magloire Kwakubi de la Commission épiscopale Justice et Paix insiste sur la forte cohésion interreligieuse qui prévaut dans le pays.
C'est inquiétant. On peut craindre le pire parce que vous vous rappelez que lorsqu'il y a eu le cas Charlie Hebdo, pas moins d'une quarantaine d'églises ont été brûlées au Niger. Bon, je ne crois pas que nous sommes dans ce cas d'espèce-là parce que au Togo, personne n'est inquiété pour sa confession. Tout le monde coexiste pacifiquement. Donc il n'y a pas de bisbille entre les religions. Depuis des lustres, il n'y a jamais eu de problème.
Dans un élan de compassion et de solidarité, la conférence des évêques du Togo a appelé à préserver le vivre ensemble pacifique entre les communautés religieuses dans le pays. Devant de tels actes qualifiés d'ignobles, l'Union musulmane du Togo invite la communauté à redoubler de vigilance. Imam Ali Sosa de l'Union musulmane du Togo.
L'Union musulmane, les conseils qu'il a donné à tout musulman du Togo, c'est d'être vigilant et patient. Et ils nous ont donné des directives à prendre. Ceux qui n'ont pas de gardiens, ils n'ont qu'à chercher les gardiens pour garder leur mosquée. C'est la maison de Dieu qu'on a saccagée. C'est très grave, très grave. Celui qui a touché la maison de Dieu et a touché le Coran, avoir l'audace jusqu'à les déchirer, il aura la punition de Dieu.
Suite à ces incidents, le ministère togolais de la Justice a ouvert une enquête pour mettre la main sur les auteurs et commanditaires de tels actes de profanation. Le ministre de la Justice, Pius Agbetome, a fait savoir qu'ils seront prêts à agir sans relâche et avec fermeté contre ces profanateurs. Kailosson, Lomé, VOA Afrique.
Votre rendez-vous quotidien, 24h/24, sur VOA Afrique, N'Djamena, au Tchad, sur 93.1 FM.
N'Djamena, la capitale tchadienne, est selon notre correspondant sale, surtout en période de pluie. Dans les 10 communes d'arrondissement et la mairie centrale, le constat est le même. Une situation déplorée par le président Idriss Déby Itno le 23 juillet dernier au cours d'une rencontre avec les autorités communales. Il leur a donné un délai de 72 heures pour assainir la ville. Trois semaines après cet ultimatum, le correspondant de VOA Afrique, N'Djamena, André Konmajingar, nous fait le point.
La situation dans les communes de 10 arrondissements est en tout cas identique, sinon pire. Je ne comprends pas pourquoi je vous donne 72 heures pour réparer le mal.
Trois semaines après cette sévère mise en garde du chef de l'État, Idriss Déby Itno, chef des communes d'arrondissement de la ville de N'Djamena, rien n'est fait sur le terrain. Des ordures creusées des caniveaux et des tas d'immondices ne sont pas dégagées et les rues ne sont pas aménagées. Une situation qui rend la ville désagréable alors que les hautes autorités du pays rêvent de faire de la capitale tchadienne la ville de l'Afrique centrale. Ironie du sort, ces élus locaux qui jouent à une prolongation comme les députés à l'Assemblée nationale, puisque leur mandat a pris fin depuis avril 2016, ne se rendent pas compte que la ville est sale. Il a fallu cette interpellation pour qu'ils organisent une tournée afin de s'enquérir des réalités du terrain. Djine Ibet est le maire de la ville de N'Djamena.
Avec les 10 maires des communes d'arrondissement, nous sommes tous aujourd'hui sur le terrain pour constater nous aussi et donner des instructions aussi fermes. Nous allons fermer les dalles, enlever les terres curées parce que la ville est sale.
Après la mise en scène de Mme le maire de la ville de N'Djamena et les 10 chefs des communes d'arrondissement, le constat est le même. Quelques citoyens interrogés par VOA Afrique affirment que ces élus locaux sont défaillants.
Je pense que l'ordre donné par le président n'a pas été du tout respecté. Il y a des bassins de rétention, le 7e arrondissement qui est débordant d'eau. À chaque fois que l'eau tombe, l'eau remonte jusque dans les concessions.
Quand il pleut, il n'y a même pas de issue pour que l'eau même passe.
Chaque année, je ne comprends même pas pourquoi cette rue ne soit pas améliorée par le 10e arrondissement.
Nous tous, les jeunes, les 10e, nous voulons que les maires prennent leurs responsabilités. Il faut qu'on amène des sables pour bien ranger la route.
Je pense que tous les maires ne sont pas stables. À chaque fois, on saute celui-là, on remet celui-là. Nous interpellons vraiment le président pour qu'il voit ce côté-là.
Pour le maire de la commune du 7e arrondissement, l'un des arrondissements le plus vaste de la capitale, le travail est en train d'être fait sur le terrain avec les moyens de bord.
Ce rappel à l'ordre n'a pas été accompagné par des moyens. Ben nous nous sommes battus de tous côtés pour faire le travail. C'est un combat qui ne peut pas se faire en un seul jour. Je demanderai à mes concitoyens de nous aider dans ce travail. Parce qu'il y a des gens qui jettent les ordures dans les caniveaux et c'est ceux-là qui nous créent tellement de problèmes.
Selon la loi numéro 9 du 15 juillet 2005 portant statut particulier de la ville de N'Djamena, toutes les communes d'arrondissement, y compris la mairie centrale, ont bénéficié chacune d'une autonomie de gestion. Malheureusement, chaque période d'hivernage est considérée comme un cauchemar pour les habitants des quartiers périphériques de N'Djamena. André Kodumadingar, N'Djamena, pour VOA Afrique.
La fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. À la mise en onde de Sims Lumami, à la console Keith Holmes et présentation Abdourahman Dia. Ainsi va le monde aujourd'hui. On reste en contact sur Facebook et sur notre site voafrique.com pour l'actualité 24 heures sur 24. Au revoir.
Ici Washington, la voix de l'Amérique. Voici un éditorial reflétant le point de vue du gouvernement des États-Unis.
L'ambassadeur des États-Unis en Éthiopie, Michael Raynor, a ouvert le 6 février 2018 à Addis Abeba un atelier de l'US Alumni Global Health. Cette rencontre réunissait 22 anciens boursiers de programmes d'échange financés par le gouvernement des États-Unis. Les délégués venus d'Éthiopie, du Lesotho, du Malawi et de la Tanzanie ont échangé sur les meilleures pratiques de communication en santé publique. L'atelier leur a aussi fourni des outils pour la promotion d'une attitude proactive concernant les soins de santé à travers l'utilisation des données et des stratégies. L'initiative appuiera également la mise en place d'un réseau d'échanges entre professionnels de la santé publique. Si nous n'arrivons pas à fournir les soins de santé à nos concitoyens, nous ressentons la douleur bien au-delà des effets de la maladie. Nous voyons l'impact négatif lorsque les enfants malades ne peuvent pas aller à l'école. Nous voyons les coûts lorsque des parents malades ne peuvent pas travailler. Et nous souffrons pour les opportunités manquées des personnes décédées prématurément et celles qui sont marginalisées et stigmatisées du fait de la maladie. Vous êtes ici parce que vous comprenez ces défis et êtes prêt à faire la différence, a déclaré l'ambassadeur Raynor aux participants. Tout comme vous, a-t-il ajouté, les États-Unis reconnaissent l'importance d'une approche coopérative et multidisciplinaire des défis sanitaires mondiaux. Diverses agences comme l'USAID, les centres de contrôle des maladies, le corps de la paix, le département de la défense et le bureau des réfugiés du département d'État travaillent sur une variété d'angles pour améliorer la santé des peuples en Afrique et dans le monde. Toutes ces agences sont représentées au sein de l'équipe de l'ambassade américaine en Éthiopie, œuvrant en étroite collaboration avec le gouvernement éthiopien, la société civile, les ONG et la communauté des donateurs. L'ambassadeur Raynor a rappelé aux participants à l'atelier d'Addis Abeba que d'ici 2050, la population africaine excédera les 2 milliards d'âmes avec 70% de personnes de moins de 35 ans. À satisfaire les besoins de 2 milliards de personnes n'est pas chose faisable pour chacun de nous individuellement. Les États-Unis sont engagés à faire leur part, mais cela nécessite des partenaires et des leaders forts comme vous, œuvrant ici sur le continent pour accomplir cette mission. Vous aurez aussi besoin de vous aider mutuellement, raison pour laquelle des telles rencontres sont importantes, a expliqué l'ambassadeur Raynor, ajoutant « Vous pouvez certainement compter sur mon engagement, celui de mes collègues et du gouvernement américain. »
C'était un éditorial reflétant le point de vue du gouvernement des États-Unis. Washington, la voix de l'Amérique.